BTP, on a l'habitude de voir les risques. Hein. Une échelle mal calée, un sol qui glisse, c'est visible. Mais là, aujourd'hui, on va parler d'un danger qui s'installe sans faire de bruit. Un truc invisible, l'hyperconnexion.
C'est un sujet vraiment paradoxal.
Oui.
Parce que les métiers du bâtiment, c'est déjà une pression mentale énorme. Il y a les délais, la météo, la coordination.
C'est un tourbillon permanent.
Exactement. Et dans ce tourbillon, ben, le smartphone, c'est le refuge facile, celui qu'on a toujours dans la poche.
Et c'est là qu'une de nos sources, elle change complètement la perspective. On pense que c'est le téléphone qui crée le stress, mais le texte dit, et c'est important, je cite, « Ce n'est pas l'outil numérique qui crée le malaise. »
Ah oui, c'est la clé.
C'est le malaise qui peut amplifier l'usage numérique. Ça change tout.
Ça change tout. L'outil n'est plus la cause, en fait. Il devient le symptôme, ou plutôt un amplificateur d'un mal-être qui est déjà là.
D'accord.
Mais c'est un piège, parce qu'en cherchant à se soulager, l'outil lui-même, il crée un nouveau stress. Les groupes WhatsApp de chantier, les applis...
La frontière devient floue, c'est ça, entre le pro et le perso.
Complètement. Tout devient poreux.
C'est le fameux « Allez, je regarde juste un dernier message à 10h du soir ».
C'est ça.
Et hop, sans s'en rendre compte, on est reparti mentalement sur le chantier. Mais alors... qu'est-ce qui rend le BTP si vulnérable à ça?
Alors, la source identifie 4 facteurs bien précis. Le premier, c'est la mobilité constante.
Le fait de bouger tout le temps.
Voilà. On change de chantier, d'équipe, parfois de ville. Et dans ce mouvement permanent, le smartphone, c'est un peu le seul point d'ancrage, le seul truc qui ne bouge pas.
Une sorte de boussole numérique.
C'est une bonne image, oui. Le deuxième facteur, c'est la pression du temps. Chaque notif, chaque petit appel, ça fragmente l'attention.
On croit gagner du temps.
Mais en réalité, on épuise nos capacités de concentration. Et ça mène à plus de fatigue et potentiellement plus d'erreurs.
Et sur un chantier, une erreur d'inattention, c'est le troisième point, j'imagine, l'exigence de sécurité.
Bien sûr. Une seconde, les yeux sur l'écran et pas sur son environnement, les conséquences peuvent être dramatiques. C'est un risque physique, direct.
Et le dernier facteur ?
Le dernier, c'est peut-être le plus insidieux. C'est culturel. C'est ce qu'on appelle la culture du silence.
C'est-à-dire ?
C'est un milieu qui valorise la force, la dureté. Donc, admettre une faiblesse, une dépendance, c'est très, très difficile. On ne va pas parler de sa santé mentale et encore moins de sa difficulté à lâcher son téléphone.
C'est fou ce paradoxe, quand on y pense. Un secteur où la vigilance collective est une question de vie ou de mort et où personne n'ose parler d'un truc qui affecte justement cette vigilance.
C'est toute la difficulté. Du coup, on ne voit le problème que par ses conséquences. Et la source insiste bien, ce n'est pas qu'une question de temps d'écran, c'est une perte de contrôle.
Et ça se manifeste comment, concrètement?
Ben, par des signaux très clairs. L'irritabilité quand le réseau est mauvais, par exemple. L'incapacité à poser son téléphone, même en famille.
Le sommeil qui est perturbé.
Exactement. Et ce sentiment terrible d'être hyper connecté, mais au fond, d'être complètement seul.
Sans parler de l'impact physique, j'imagine. La fatigue des yeux, les tensions dans la nuque. On pense que c'est un problème de bureau, mais sur un corps déjà fatigué par le travail physique, ça doit être terrible.
Absolument. On ajoute une fatigue nerveuse à une fatigue physique déjà intense. Et pourtant, et ça c'est vraiment le point central, on manque cruellement de données là-dessus. C'est un angle mort de la recherche.
Ce qui n'est pas mesuré n'est pas pris en charge.
Voilà, c'est le grand classique.
D'accord, donc on a les causes, les symptômes, mais on dirait que la conversation ne fait que commencer. Est-ce que les sources proposent des pistes, des solutions
Oui, et elles sont assez pragmatiques. La première chose, c'est de sensibiliser, mais sans juger, sans infantiliser, juste ouvrir le dialogue.
Créer un espace pour en parler?
C'est ça. Ensuite, il faut établir un cadre clair, une charte d'utilisation, et surtout un vrai droit à la déconnexion qui soit respecté. Et enfin, proposer un soutien psychologique accessible. Et, point essentiel, anonyme.
Anonyme, pour briser justement cette culture du silence.
C'est la seule clé pour que ça fonctionne.
En résumé, si on prend un peu de recul, le défi, ce n'est pas de bannir l'écran, c'est un outil de travail après tout.
Bien sûr.
C'est plutôt de protéger l'essentiel, l'attention, le repos et l'équilibre mental des équipes. J'aime beaucoup une des analogies de la source qui dit que poser un cadre pour le numérique, c'est une fondation. C'est aussi vital que les fondations en béton d'un bâtiment.
C'est une très belle image. Et ça ouvre sur une question pour l'avenir, en fait.
Laquelle ?
On parle déjà de l'arrivée de l'IA, de la réalité augmentée sur les chantiers, de nouveaux outils connectés. La question n'est donc plus seulement de gérer le présent. La vraie question, c'est comment on intègre la prévention du risque numérique au cœur même des protocoles de sécurité, au même titre qu'un casque ou des chaussures de protection.